parti.
Là, par contre,
oui.
Je vais demander à tout le monde de se mettre en mute parce qu'il y a des bruits de fond.
Erev Tov les Koulam. Erev Tov les Koulam. Je vais allumer la lumière un petit peu. Voilà. Erev Tov les Koulam. Alors, j'espère que voilà, moi je transpire. Je viens de sortir de ma Medoura de la Baomer sur ma terrasse. J'ai allumé mes loulavim que j'avais gardé pour cet effet depuis Soukhot. Et donc, bah, c'est parti. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a mangé les chamallows, les bananes, tout ce qui peut fondre sur le feu, eh bien maintenant, on est parti, on est lancé. Alors, quel est le titre et le thème du Shiur, on me demande. Eh bien, le thème, ça va être en rapport évidemment avec l'Akba Omer. Le titre, normalement, il est mentionné dans le truc, mais je l'ai appelé de manière purement aléatoire Rabbi Akiva, Bar Korva et Astérix. C'est comme ça que je l'ai appelé ici. Mais en fait, le titre n'est pas très, très important. Vous allez voir qu'on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, comme la semaine dernière, quand on a parlé de Herzl, avant de rentrer dans le message toranique qu'il représente, eh bien, il est fondamental de se remettre un petit peu dans l'ambiance. L'ambiance de cette époque, l'ambiance de Bar Korva. Alors, je ne vais pas, cette année, réexpliquer que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre de Bar Korva, ça on l'a déjà fait, donc vous le savez très bien. Mais je voudrais réexpliquer quelle est l'ambiance du peuple juif à ce moment-là. Après la destruction du deuxième temple, donc en l'an 70, et en fait, en l'an 100, c'est pas 70, c'est 74 si on veut, lorsqu'il y a la chute de Masada, eh bien, on arrive véritablement à la fin de la guerre, qu'on va appeler la Grande Révolte. Eh bien, à la suite de cette Grande Guerre, qui va durer donc 4 ans officiels de 66 à 70, plus encore 3 ans et demi de combat à Masada, eh bien, à la fin de cette histoire-là, le peuple juif a été frappé, a été détruit en plein cœur, on a détruit le Beth Amikdash, une grande partie de la ville de Jérusalem a été décimée, mais petit à petit, la vie reprend son cours. Alors, évidemment, différemment, puisqu'il faut réinventer le judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut réinventer le judaïsme? C'est-à-dire, il faut réinventer un judaïsme qui ne sera plus centralisé autour du Beth Amikdash, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Il faut donc réinventer un judaïsme qui va petit à petit devenir une religion, se comporter comme une religion, puisqu'elle ne peut plus être centralisée. Et pourtant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, bah comme je le dis, au bout d'une dizaine d'années, la vie a retrouvé son cours à Jérusalem. Les Juifs sont restés à Jérusalem. Une partie a été envoyée en exil directement, mais la grande majorité des Juifs restent sur place. Dans leur communauté où ils étaient, tout le monde n'était pas en Israël. Il y avait des communautés dans le pourtour méditerranéen, à Alexandrie, dans ce qui est aujourd'hui la Libye et tout ça. Et en Israël, eh bien, la majorité des Juifs y restent. Donc, si vous voulez, la vie juive reprend son cours. La grande différence, c'est que cette fois, la présence romaine est de plus en plus importante. Seulement, eh bien, lorsqu'il y a la mort de Titus, et donc son remplacement, alors tous les espoirs recommencent chez les Juifs. Pourquoi les espoirs recommencent chez les Juifs? Eh bien, parce que le César qui va remplacer, Trajan, eh bien, va promettre aux Juifs qu'ils peuvent reconstruire le Beth Amikdash, mais à une condition, bah, c'est qu'ils le financent. Mais Rome veut bien qu'ils construisent le Beth Amikdash, mais à une condition, c'est que c'est Rome qui organise la reconstruction. C'est-à-dire que ça passe, ça doit transiter par Rome. Bah, les Juifs, ils disent, bah, pourquoi pas? Et donc, ils vont commencer une grande collecte d'impôts au sein des Juifs pour reconstruire le Beth Amikdash. Et tu m'étonnes que tout le monde met la main à la pâte. Parce que tout le monde se dit, on va reconstruire le Beth Amikdash, c'est la folie. Comme on a dit, l'entente avec Rome était qu'il fallait que ça passe par Rome. Donc, pas de problème, ça va passer par Rome. Sauf que ça va passer par Rome. Et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, tout était un stratagème mis en place pour ben, racketter les Juifs.
Non, effectivement, je trouve que…
Qu'est-ce qui se passe ? Ellie, Houston, on t'a perdu. Ellie. Ellie, tu es là, on t'a perdu. Qu'est-ce qui se passe ?
Par contre, ouais.
Mais tu peux pas, toi, en tant qu'administrateur, couper tous les micros directement et mettre…
Qu'est-ce qui se passe ?
Je crois que si tu te connectes en premier, mais… Je sais pas s'il a réalisé qu'il s'est déconnecté du…
Appelle-le, je pense.
Qui, moi ?
Attends, je vais l'appeler, une seconde.
Moi ? Désolé pour le YouTube Live, on a un petit problème technique sur l'autre plateforme. Donc, deux petites secondes. Tov. Bizarre. Allô ?
Ouais, tu t'es déconnecté là. En fait.
Mais je crois pas. Hein. Moi, j'étais toujours. Je me voyais dans le truc. Enfin, ça...
On t'a tous perdu.
Très bizarre. Bon, bah, je me reconnecte alors.
Et on t'entendait très mal par rapport à la semaine dernière. T'as compris quoi que tu jouais de mots ?
Bon, alors attends, on va la refaire. Je vais mettre tes écouteurs. Ok. Est-ce que là on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend maintenant ? Là on m'entend ? Top. Bon, alors je ne sais pas où vous m'avez perdu, mais on reprend. On reprend. Donc, comme je le disais, les Romains donc, nous permettent de reconstruire le Beth Amikdash. À condition sur nos deniers et que, comme je disais, les Romains chapotent un peu tout le truc. Donc finalement, tout le monde donne de l'argent et bah, ce qui va se passer, c'est que bah, non, ça va passer par les Romains, mais les Romains vont garder pour eux l'argent. Et donc, ils vont partir avec la caisse, ce qui va complètement plomber l'ambiance chez les Juifs. Plomber l'ambiance chez les Juifs, d'autant plus qu'à ce moment-là, eh bien, il y a une passation de pouvoir à Rome, un nouvel empereur arrive. Et nouvel empereur, c'est rarement bon signe. Et ce nouvel empereur, en l'occurrence, il va s'appeler Adrien. Et tu m'étonnes que ce ne sera pas un bon signe. On a un autre problème parce qu'avant Adrien, Adrien arrive sur le fond. On m'entend pas ? Là, on m'entend. Là, c'est bon, là ? Là, c'est bien. Yofi ! Et pourtant, c'était un beau profil. Hein. C'était un beau profil, pourtant. Bekitsour, donc juste avant qu'Adrien ne monte sur le trône, eh bien, la situation est très compliquée. Parce que nous, on connaît la grande révolte, on connaît la révolte de Bar Corva, mais on connaît mal la révolte qu'il y a eu au milieu. En l'an 117, il y a une autre révolte qui s'appelle la révolte des communautés de diaspora, où Israël n'est pas impliqué, mais c'est toutes les communautés juives de diaspora, c'est-à-dire du pourtour méditerranéen, qui se révoltent contre l'Empire romain. Finalement, elle va être matée, cette révolte, en un an. Mais cette révolte, elle montre que ça gronde contre les Romains. Justement parce qu'ils s'en est mis plein les poches, Trajan, et que ça, on n'en peut plus, quoi. Lorsque Adrien, donc, monte sur le trône après cette révolte-là, autant te dire que les Juifs, il en a marre. Il en a marre complètement. Et donc, dès sa nomination, eh bien, on va mettre en place ici à Jérusalem plus une, mais deux légions. Deux légions pour bien montrer qu'ils ne peuvent pas se comporter comme ils veulent les Juifs. La pression est de plus en plus palpable. À ce moment-là, il y a un nouveau rabbin qui émerge et qui prend le contrôle de l'autorité religieuse juive. C'est-à-dire, à la mort du Beit HaMikdash, à la chute du Beit HaMikdash, le patron, il s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, eh bien, c'est lui qui va être le patron de Yavne. Après lui, on va avoir Rabban Shimon ben Gamliel. Malheureusement, il ne tiendra pas longtemps. Rabban Gamliel de Yavne, c'est lui qui va prendre la succession. Il est le Nassi à Sanhedrin. Mais très vite, il ne va pas s'imposer comme étant le véritable leader du monde de la Torah et donc du monde juif en général. Le véritable leader qui prend de plus en plus de poids, eh bien, vous le connaissez, il s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va être donc celui qui va embraser le peuple juif contre les Romains. Ok ? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Adrien, qui, comme je vous l'ai dit, déteste les Juifs, va bien le faire ressentir à tout le monde et va commencer des xérotes anti-juives avant la révolte de Bar Kokhba. On a tendance à penser que beaucoup de décrets d'Adrien vont arriver en réponse et représailles à la guerre de Bar Kokhba. Eh bien non, il y aura plein de xérotes qui vont arriver avant, qui vont justement amener à la révolte. Et la xéra, si je puis dire, qui va être la plus mal vécue, c'est que les Romains, non contents d'avoir fait une promesse encore une fois qu'ils ne vont pas réaliser, j'ai dit la première promesse de Trajan, c'était de reconstruire le Beit HaMikdash, il est parti avec la caisse. La deuxième promesse, cette fois faite par Adrien, c'est qu'il va reconstruire Jérusalem. Alors, il la tient, la promesse, mais pas du tout comme il l'avait promis aux Juifs, puisque finalement, il va reconstruire la ville de Jérusalem, mais comme une ville romaine. Et la première chose qu'il fait, c'est donc de changer le nom de la ville en Alia Capitolina. À ce moment-là, ben on n'en peut plus, on sort en guerre. Et c'est la guerre de Bar Kokhba. C'est la guerre de Bar Kokhba, et cette guerre de Bar Kokhba, donc menée par cet homme, Shimon ben Kosva, c'est comme ça qu'il est mentionné, marqué lui-même dans ses lettres qu'on a retrouvées 2000 ans plus tard, et j'y reviendrai dans ses lettres. Shimon ben Kosva, soutenu par Rabbi Akiva, eh bien, va mener ses combats. Pendant 3 ans, une guerre sans merci contre l'Empire romain, une guerre tellement énorme qui va être tellement mal vécue par les Romains qu'ils vont être obligés d'envoyer de 12 à 14 légions en Israël, ce qui est énorme. On a vu que 3 fois dans toute l'histoire de l'Empire romain qu'ils ont emmené autant de soldats pour vaincre une petite province finalement. D'autant plus que Bar Kokhba pendant 2 ans va gagner et va même imprimer une monnaie signe de victoire, signe d'indépendance. Et finalement, eh bien, il y aura la destruction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, je ne veux pas me concentrer que sur la révolte de Bar Kokhba. On l'avait fait avec les élèves de Rabbi Akiva. On l'avait fait dans des cours précédents. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'après. Puisque finalement, nous, on est les Juifs de l'après. On connaît la fin du film. On sait que finalement, la révolte de Bar Kokhba a échoué. On sait que finalement, la seule préoccupation du judaïsme de l'après Bar Kokhba va être de survivre pour un jour réussir là où on a échoué. Que les choses soient claires, la guerre de Bar Kokhba était une tentative pour retrouver la Géoula, pour retrouver l'indépendance. Ça n'a pas marché. Entre parenthèses, c'est la non-coordination des Juifs qui a fait que ça n'a pas marché. Pas pendant la guerre de Bar Kokhba, mais pratiquement tous les historiens s'accordent pour dire que si le Mered des Tfutzot, la révolte des communautés de diaspora de 117 et la guerre de Bar Kokhba de 132 avaient eu lieu en même temps, c'est-à-dire si on s'était mis d'accord, on aurait battu les Romains. Ils n'auraient pas pu gérer. Mais bon, on ne refait pas le match, comme disait Eugène Saccomano, en malasot. Et eh oui, ça t'a fait plaisir. Hein, Elie, ça t'a fait plaisir, celui-là. Tu l'as pas vu venir. En tout cas, eh oui, on retrouve les vieux diavels. Je vais pas. Mais c'est ça, dans ce monde de brutes, on aimerait tous retourner sur le terrain un petit peu. Mais bon, encore quelques semaines. Et on pourra enfin se dire, on refait le match. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on ne refait pas le match. On a perdu cette guerre de Bar Korva. On l'a perdu. Et la préoccupation des rabbins de l'après, c'est de faire survivre le judaïsme. Alors, c'est qui ces rabbins de l'après? On a dit le grand personnage de la Torah qui va nous amener jusqu'à la guerre de Bar Korva, c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva meurt en l'an 135, massacré par les Romains dans le théâtre de Césarée. Rabbi Akiva meurt et il laisse derrière lui, non pas 24 000 élèves, mais il laisse derrière lui 5 élèves. Ces 5 élèves, on les connaît. C'est Rabbi Yehuda Bar Ilaï, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Meir Baalanes, c'est Rabbi Yossi Ben Korcha, et c'est également Rabbi Elazar Ben Shamua. Donc on les connaît, ces 5 rabbins, ce sont eux qui vont avoir pour tâche énorme de maintenir le judaïsme jusqu'au moment où ça marchera. Et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Parce que toute la Torah de Rabbi Akiva, et quand je dis toute la Torah de Rabbi Akiva, en fait, je devrais dire toute la Torah tout court, car Rabbi Akiva est le détenteur de toute la Torah. Comment je le sais? Eh bien, il est le détenteur de toute la Torah pour une raison très simple. Vous le savez. Lorsque Moshe Rabbeinu, le Talmud nous raconte cette histoire, que lorsque Dieu fait voyager un petit peu Moshe dans sa machine temporelle et le fait voir toutes les générations, et que Moshe rentre dans le Beit Hamidrash de Rabbi Akiva, il va finir par dire « Tu as un homme comme ça, et c'est par moi que tu donnes la Torah ». En d'autres termes, Rabbi Akiva est plus grand que Moshe. Donc Rabbi Akiva, c'est toute la Torah Kula. Toute la question est de savoir comment ces 5 élèves vont continuer. Quand je parle de toute la Torah, de quoi parlons-nous? Nous sommes Erev Lag Baomer, et nous sommes Lag Baomer, c'est pas le Erev Lag Baomer, nous sommes Lag Baomer. Et donc, Lag Baomer, c'est devenu, après Rabbi Akiva, la journée de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est devenu la journée des Médourot. Alors qu'on avait vu dans les cours précédents que la minhag de Lag Baomer à la base, c'était de tirer à l'arc. Mais c'est devenu les Médourot, le feu de cette Torah du Sefer HaZohar, mais en fait pas que. Et c'est là que je veux en venir. Rabbi Akiva, c'est toute la Torah. Rabbi Akiva, de toutes les phrases, de tous les enseignements de Rabbi Akiva, d'ailleurs entre parenthèses, vous savez que Rabbi Akiva a essayé de soudoyer les gouvernements pour que son avis halakhique soit accepté par le peuple juif. Ça n'a pas marché. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a retrouvé les pièces de monnaie imprimées par Bar Korva. Et on sait bien que donc Rabbi Akiva était le mentor de Bar Korva, si on veut, au niveau spirituel. Eh bien, sur les pièces de monnaie de Bar Korva, on a vu qu'il y a les Arbat Aminim. Seulement, il y a un Loulav, un Etrog, un Hadas et un Arava. C'est pas la halakha, mais c'est l'avis de Rabbi Akiva dans la Mishnah dans Maseret Souka. L'avis de Rabbi Ishmael, c'est celui qui est retenu dans la halakha. Donc tu vois que c'est pas parce que le roi, l'État a fait imprimer tes livres, que tu as des taktsivim pour tes yeshivot, que c'est forcément toi qui as raison au niveau de la halakha. Donc ça, c'était une petite parenthèse, aucun rapport. D'ailleurs, entre parenthèses, deuxième, est-ce que Bar Korva était une personnalité toranique? C'est-à-dire, est-ce qu'il était respectueux de la halakha? De ce qu'on peut en savoir, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Rabbi Akiva, oui, c'est bon, c'est un rabbin. Mais Bar Korva, relige ou pas relige? Pas évident. Pas évident. D'un côté, il y a plein de rabbins qui sont contre lui parce qu'il demande des choses aux Bnei Israël qui rentrent dans son armée et qui sont complètement contraires à la halakha. Il leur demande de s'amputer d'un doigt. Ça ne va pas. D'un autre côté, quand on retrouve les lettres de Bar Corva 2000 ans plus tard, eh bien, on va retrouver, par exemple, les lettres qu'il envoie aux généraux de ses armées qui sont stationnés à côté de En Gedi. Il leur dit, voilà, je vous ai envoyé deux ânes. Vous allez devoir faire en sorte que de En Gedi, on pourvoie mon armée en Lulavim, Etrogim, Adassim, Varavot. Et attention, vous prélevez bien Troumot ou Maasrot avant de me les envoyer. Donc, tu vois que le mec, il est quand même intéressé pour ce que son armée, il est de quoi faire Rabat Aminim. Il demande à ce qu'on prélève Troumot ou Maasrot. C'est l'ostam. Donc, c'est pas évident, cette histoire. Je referme la parenthèse également. Donc, Rabbi Akiva, il représente toute la Torah. Mais quand on dit il représente toute la Torah, eh bien, comme vous le savez, toute la Torah, Zeshlosha. Eh oui, nous avons trois Torahs. Trois Torot. Comme vous le savez d'ailleurs. Torah Shebirtav, Torah Shebealpe, Torah Shel Mashiach ou Torat Akabala, Torat Asod. Rabbi Akiva réunit les trois. Ben évidemment, Rabbi Akiva est le plus grand darshan de la Torah. Torah Shebirtav, je parle. Il va même concurrencer Moshe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rabbi Akiva, il est d'un autre côté, ben celui qui est le Rosh Lachachamim de la Torah Shebealpe. Il est d'un troisième côté, celui qui est capable de faire des tilé-tilim sur les ktarim qu'il y a sur les otiotes du Sefer Torah qui est complètement Torah Takabala. Donc, il réunit tout. Le défi de l'après-Rabbi Akiva, ça va être de voir comment est-ce qu'on continue à gérer cela. L'après-Rabbi Akiva, c'est le début de l'exil. Puisque après la guerre de Bar Corva, l'exil prend officiellement départ, prend le début, ça y est. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de la guerre de Bar Corva, non seulement Jérusalem est devenue Alia Capitolina, non seulement le pays ne s'appelle plus la Judée, mais s'appelle Palestine, un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem, un juif n'a plus le droit d'habiter nulle part où on pourrait voir Jérusalem, donc tout d'un coup, ben, on va voir les Chachamim plus dans la région, mais monter dans la Galilée, et je te passe les xérotes classiques, pas le droit de faire la Brit Mila, pas le droit de faire le Shabbat, des trucs classiques, quoi. L'exil commence après la guerre de Bar Corva. C'est donc le moment de véritablement commencer à réfléchir, ben non seulement comment on va sortir d'exil, existe-t-il un lien entre la fin de la révolte de Bar Corva et l'expansion du christianisme dans l'Empire romain ? Non, il n'existe aucun lien entre la fin de la révolte de Bar Corva et l'expansion du christianisme dans l'Empire romain. Pour une raison très simple, c'est que Constantin, qui va finalement convertir l'Empire romain en Empire chrétien, ça sera que 200 ans plus tard. Et donc, ce n'est qu'à partir véritablement de la fin du IIe siècle que les premiers chrétiens vont commencer véritablement à se développer à Rome dans l'Empire romain. Donc, on ne peut pas vraiment, véritablement mettre une relation de cause à effet, même si, et il est vrai que la fin du Beth Amikdash serait plus un moteur pour le dévoilement du christianisme. Parce que la fin du Beth Amikdash va imposer aux juifs qui étaient, si vous voulez, dans une idéologie un petit peu chrétienne, de partir et donc de commencer à partir en Europe. Mais ce n'est pas la guerre de Bar Corva qui va amener à une expansion du christianisme dans l'Empire romain. Bekitsour, puisque maintenant l'exil commence vraiment, eh bien il faut commencer à réfléchir concrètement à qu'est-ce qu'on fait pour maintenir ce judaïsme en exil, et deux, comment on va faire pour en sortir. Sortir d'exil, c'est également en sortir quelque chose. On n'est pas seulement parti en exil parce qu'on a fauté, on n'est pas seulement sorti en exil parce que on a perdu une guerre, ça c'est les éléments concrets, on est également parti en exil pour en sortir quelque chose. qu'est-ce qu'on va donc en sortir ? Vous le savez, je ne sais pas si on l'a... Oui, on l'a sûrement étudié déjà ensemble. Le départ en exil et ce qu'on en ressort de l'exil, eh bien tout ça, c'est le propre d'une mitzvah extraordinaire qui s'appelle mitzvah Shiluach HaKen. Mitzvah Shiluach HaKen, pour moi, je me le rappelle, c'est lorsque tu marches dans la rue, qui carré ken sipor le fanecha, tu vois un nid d'oiseau, eh bien, tu dois chasser la mer et prendre ce qu'il y a dans le nid. Et c'est comme ça que tu as fait la mitzvah. On te parle là-bas que cette mitzvah va te permettre de ve'ararta yamim. C'est une mitzvah qui te donne la longévité. Est-ce qu'on parle au niveau de l'individu qui fait la mitzvah ? Bien sûr que non. C'est ce qui va faire chavirer Elisha ben Abouya, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est au niveau du peuple juif. Que représente, d'ailleurs, entre parenthèses, tu ne peux pas faire cette mitzvah si tu trouves un nid sur ta terrasse. Il faut que ce soit bemikré, c'est-à-dire baderer, pas chez toi. Quoi qu'il en soit, hein, cette mitzvah, elle représente quoi ? Eh bien, elle représente le départ en exil et la sortie de l'exil. Le nid, c'est Eretz Israël. Ce qui est dans le nid, c'est Am Israël. La maman qui se balade au-dessus du nid, c'est la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais la mitzvah de rejeter la mer, tu rejettes la Shrina, tu fais la, en condensé l'exercice de l'exil, puisque tu enlèves la Shrina, qui pendant l'exil part, et tu enlèves les choses qu'il y a dans le nid du nid, donc les Bnei Israël de Eretz Israël. Maintenant, l'objectif, c'est quoi ? Eh bien, c'est de pouvoir également, une fois que tu es là-bas, intégrer et sortir de cet exil ben, les choses qu'il y a à en sortir. Et c'est quoi qui est à sortir de ces exils ? Que je vous rappelle, je parle de ces exils, car d'exil, il y en a eu trois. Il y a l'exil d'Égypte, il y a l'exil de Babylone et l'exil de Rome. Eh bien, de ces trois choses, de ces trois exils, c'est là, nous pouvons sortir trois choses. Quand on regarde dans les versets de la Torah, pour la mitzvah de Shiluach HaKen, eh bien, on se rendra compte qu'il y a trois sortes de choses qu'on va pouvoir trouver dans le nid. Soit on va trouver des betim, des œufs, soit on va trouver des ephrochim, des oisillons, soit on va trouver des banim, c'est-à-dire des oiseaux prêts à prendre leur envol. C'est les trois notions qui sont amenées dans le verset. On dira le Sefer HaZohar qu'en fait, ces trois choses représentent les trois choses qu'on peut prendre de trois exils. Les betim, c'est quelque chose qui est petit, pas vivant du, pas très vivant du tout, mais d'un autre côté, très facile à intégrer. Une omelette, c'est vite réglé. Nous dit le Zohar, « Abetzim, ze Torah shebirtav. » C'est petit, 24 livres du Tanakh, c'est facile à intégrer, mais c'est figé dans l'histoire, c'est pas très vivant. D'un autre côté, « Ephrochim, oh Ephrochim, c'est très très vivant, ça bouge dans tous les sens, mais c'est très très dur à l'intégrer. » C'est très dur de décortiquer des Ephrochim. Zé, nous dit le Zohar, Torah Shebealpé. Totalement vivant, mais tellement dur à intégrer. Enfin, les Banim. Eh bien, les Banim, c'est quoi ? C'est, alors là, c'est vivant la Méhadrine, c'est vivant Bariboua. C'est même capable maintenant de voler, de t'élever au-delà de la Metsiout. Et c'est tout à fait intégrable. Tu te fais, je ne sais pas moi, un plat de pigeon, la Béadrine. Nous dit le Zohar, Zé Torah Takabala. Lorsqu'on est sorti du premier exil d'Égypte, on a pris avec nous les Betsim. C'est-à-dire qu'on a pris avec nous Torah Shebirtav. Et iné, on a reçu Torah Shebirtav en sortant d'Égypte. Quand on est sorti de l'exil de Babylone, on a pris avec nous les Ephrochim. C'est-à-dire qu'on a pris avec nous Torah Shebealpé. Torah Shebealpé qu'on a découvert et qu'on a mis en place avec eh bien, les Chachamim, des Zougot et ensuite les Tanaïm, ainsi de suite. Et quand on sort de l'exil de Rome, eh bien, depuis une centaine d'années, Akadosh Baruch Hu nous dévoile Torah Takabala. D'abord la Chassidut, le Baal Shem Tov, le Rav Kook, le Chadomé. En d'autres termes, ces trois torotes, pour qu'on puisse réussir à survivre, eh bien, on a besoin des trois. Certes, pendant la période d'exil, eh bien, il y en aura deux qui prendront le pas sur la troisième. C'est-à-dire, en période d'exil, c'est à 90% Torah Shebirtav, Torah Shebealpé qui gère. Torah Tassod, elle est saudite. Aval Beyom Ageoula, la Torah Tassod reprend tout son rôle. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Rabbi Akiva, eh bien, il réunissait ces trois dimensions. Rabbi Akiva, il était Torah Shebirtav, il était Torah Shebealpé, il était également Torah Tassod. Rabbi Akiva voit que le Mered est sur le point d'échouer complètement. Et donc, juste avant de se faire capturer par les Romains, après avoir perdu ses 24 000 élèves dans la guerre, eh bien, nous dit la Gemara qu'il va aller chez Rabotenu chez Badarom, et là-bas, il va mettre en place une nouvelle génération de rabbins. Il va former 5 rabbins. Je les ai évoqués tout à l'heure. Je répète, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce soir, évidemment, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yossi Ben Khalafta, Rabbi Elazar Ben Shamoua et Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabotai, ces 5 rabbins vont avoir pour rôle de succéder à Rabbi Akiva. Vous comprenez l'enjeu ? Et donc, ces 5 rabbins vont se partager les 3 taurotes. Le rabbin élève, l'élève de Rabbi Akiva, qui est celui qui va porter et devenir le symbole de Torah Shebirtav, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Rabbi Elazar ben Shamoua, on va le retrouver dans le Midrash Ele Eskera, le Midrash qui parle de Asara Rougé Malchut. Rabbi Elazar ben Shamoua va se faire tuer par les Romains Alma al mitzvat ha-shabbat. Et lorsque les Romains lui disent « Mais pourquoi est-ce que tu fais Shabbat ? Tu es prêt à te faire tuer pour Shabbat ?» Il répond « Ki kacha katuv batora. » C'est-à-dire que pour Rabbi Elazar ben Shamoua, Shabbat n'est pas seulement une notion de halakha, mais pour lui, c'est « katuv batora ». Ça sera ses derniers mots ba'olam hazé. « Kach katuv batora ». Rabbi Elazar ben Shamoua est le Torah Shebirtav men des élèves de Rabbi Akiva. D'un autre côté, nous avons deux représentants de Torah Shebealpé. Rabbi Yossi Aglili et également Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Yossi Aglili nous dira le Talmud que Berov Amachlokot Alacha Ke Rabbi Yossi. Et d'un autre côté, celui qui tranche les Machlokot, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai qui devient le Nassi, enfin pas le Nassi à Sanhedrin à proprement parler, mais qui devient le chef des rabbins. Il devient le chef de la Torah orale, à tel point que la majorité des Mishnayot viennent de Rabbi Yehuda. En d'autres termes, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda vont devenir les rabbins de la Torah chez Béalpé. Pourquoi ne pas se fier à l'idée de Rabbi Meir ? Rabbi Meir, il était un grand Talmid Chacham. Pourquoi ne pas aller l'ifsok à Halakha comme lui ? En plus, la Gemara dit qu'il n'y a pas Bédoro comme Rabbi Meir. C'est le plus grand. Oui, mais il est tellement grand que personne ne comprend ce qu'il dit. Donc, comme personne ne comprend ce qu'il dit, ben, on ne peut pas l'ifsok à Halakha comme auto. C'est-à-dire, tu ne peux pas être le rabbin de la Halakha quand tu es trop là-haut. Et Rabbi Shimon ? Certes, nous dit la Gemara, qu'on peut se fier à Rabbi Shimon Beshaat Atrak. En cas de force majeure, tu peux te fier à Rabbi Shimon, mais que en cas de force majeure. Rabbi Meir et Rabbi Shimon ne sont pas les rabbins de la Halakha. Ils sont les rabbins de Torah Takabala. Pendant 2000 ans d'exil, c'est la Torah de Rabbi Lazar et la Torah de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, qui ont maintenu le peuple juif. Mais l'après-Galout, le moment où on sort d'exil, c'est le moment où on est capable de ramener également la Torah de Rabbi Meir et la Torah de Rabbi Shimon. Mais qu'est-ce que c'est la Torah de Rabbi Meir et la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai ? Qu'est-ce que c'est que cette Torah ta Kabbalah? Abotai, Rabbi Shimon Bar Yochai, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quelle est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai? Comment vous me décririez? Je ne sais pas si vous êtes tous, j'imagine que ça, beaucoup d'entre vous le sont, mais peut-être que tout le monde n'est pas encore un professionnel du Zohar. Mais si vous deviez me résumer la Torah de Rabbi Shimon en une phrase, ce serait quoi? Encore un tzadik? Hein? Du Zohar. Allez, Choliot, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Mais ce n'est pas le même araméen que l'araméen de la Gemara. Donc, il faut que les gens ils apprennent un autre araméen. Alors, tu me dis, c'est quoi la Torah de Rabbi Shimon? Tu me dis un feu flamboyant. C'est trop poétique pour moi. Il faut un peu plus de concret. Comment tu me résumerais la Torah de Rabbi Shimon? La Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai même pas la peine d'aller dans le Zohar. Elle est marquée noir sur blanc dans la Gemara. Si je devais résumer la Torah de Rabbi Shimon, je parle évidemment de Rabbi Shimon lorsqu'il sort de la grotte. Le Rabbi Shimon du Zohar. Eh bien, sa Torah, c'est lorsqu'il comprend qu'il y a l'union Ba'olam Hazé en temps de Géoula, de Torah là-haut et de Olam Hazé ici. Vous vous rappelez de cette histoire que lorsqu'il voit finalement la première fois qu'il sort de la grotte, il voit quelqu'un qui travaille la terre, il le brûle. Mais lorsqu'il voit la deuxième fois qu'il sort ce vieil homme, qu'il vient un petit peu... là, j'y viens dans deux secondes. Lorsqu'il voit ce vieil homme arriver avec deux rameaux de Hadassim, il dit « Pourquoi tu fais ça ?»« Echad ken ket shamor, zachor, c'est Shabbat. » Alors il dit « Kama chavivim al em Israël amitzvot. » C'est-à-dire, il comprend que Bizman shel Galut, travailler la terre, ça ne fait que enrichir les Romains. Et donc, à ce moment-là, il vaut mieux étudier la Torah. Bizman la Galut, la Torah, elle est au Beit HaMidrash. Bizman la Geoula, Rabbi Shimon, il comprend que la Torah, elle est gam be Beit HaMidrash, évidemment. Aval gam michutz le Beit HaMidrash. C'est-à-dire qu'il y a une union entre la Torah et Chaye HaOlam. En d'autres termes, une union entre Kodesh Vechol. Et c'est ce que tu dis là, quand tu me dis que la Kabbalah, c'est les restes de la prophétie. Bidiouk. Bidiouk. Les restes de la prophétie, c'est-à-dire le moment où on ressent le Kodesh, le dévoilement de Dieu, Ba'olam Hazé. Ça, c'est la Torah de Reb Shimon. Seulement, le risque... Oui, vas-y. À une télé. Ça dépend. Ça, si le film est bon, on peut laisser. Mais ça dépend. Et donc, si tu veux, le risque, le danger, car il y a un danger, le danger de la Torah de Reb Shimon, eh bien, c'est que lorsque tu vas essayer de faire descendre la Torah et la mettre en osmose avec Ha'olam Hazé, il y a plein d'endroits Ba'olam Hazé qui sont extrêmement sombres. C'est-à-dire qui sont les endroits que la halakha n'éclaire pas. Qui sont les endroits qui sont du domaine du parvé. C'est-à-dire l'eau de la mitzvah et l'eau du issour, mais du domaine du moutar. Le problème, c'est que le moutar peut très vite devenir un issour. Moutard de boire un petit coup, mais assour d'être quelqu'un qui est bourré toute la journée. Moutard de se faire un burger, assour de devenir quelqu'un qui est gassoir et qui ne pense qu'à s'empiffrer. Moutard d'aller faire un peu de sport, assour de devenir quelqu'un qui ne pense qu'à cultiver son corps. Donc, le moutard est très compliqué à gérer. Pour gérer le moutard, eh bien, il faut tout simplement lui amener un spot, un éclairage. Comment ça, on ne m'entend plus? On ne m'entend plus? C'est bon? Ok. Tant pour moi. Donc je dis, pour que le moutard devienne quelque chose qui est bénéfique, eh bien, il faut lui mettre un spot, il faut l'éclairer. Il faut l'éclairer. En fait, ce moutard, c'est quoi ? Eh bien, sans rentrer dans, trop dans Torah Takabala, on est l'Akba Omer, il ne faudrait pas exagérer non plus. Il y a dans l'homme des kohot, vous les connaissez, le Admor HaZaken va les mettre en action sous l'égide de ce qu'il appelle Nefesh Behemit ve Nefesh Elohit. Ben, Nefesh Elohit, ce n'est pas compliqué. Nefesh Elohit, c'est ce qui fait faire des mitzvot. Nefesh Behemit, ce n'est pas forcément ce qui me fait faire des averot. On dira le Admor HaZaken, Isaharou bedivrechem. Deux secondes. Comment revenir en Israël ? Deux secondes, Rabotai. Vous allez beaucoup trop vite. Pour l'instant, je veux essayer de comprendre c'est quoi cette lumière dont on a besoin pour faire en sorte d'utiliser le moutard. Je dis, la Nefesh Elohit, c'est ce qui me fait faire des mitzvot. Donc ça, ce n'est pas un débat. C'est facile. Mais j'ai également une Nefesh Behemit à l'intérieur qui ne va pas forcément me faire faire du mal, qui peut me faire vouloir aller vers les averot, mais ça, c'est finalement assez facile à gérer. J'ai mon Shulchan Aruch qui me dit ça, c'est assour. Bon, ben, c'est assour. Mais il y a une force en moi qui s'appelle Noga, Klipat Noga, qui est le domaine du moutard. Et pour que cette Klipat Noga serve le dévoilement de Dieu, eh bien, il faut juste que je l'éclaire, que je lui montre que ce qui est moutard peut devenir Kodesh. Cette Torah-là, c'est la Torah de Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Plein de choses. Mais la chose la plus extraordinaire qu'on sait de lui, eh bien, c'est que dans son Sefer Torah, il n'y avait pas marqué Kutnot Or avec Aïn, mais bien Kutnot Or avec Aleph. De quoi parlons-nous ? Bien, lorsque Dieu sort Adam et Chava du Gan Eden, il leur fait des tuniques de peau, Kutnot Or. La peau, c'est ce qui fait écran entre mon intériorité et le monde. C'est ce qu'on appelle Klipat Nogalo Saviv. Est-ce que cette Kutnot Or, elle est or ? Ou est-ce qu'elle est or ? Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'était des tuniques de lumière, or avec un aleph, c'est-à-dire de la lumière. En d'autres termes, Rabbi Meir, sa Torah, c'est celle qui permet de donner cette lumière suffisante à tout ce qui est du domaine du moutard qui va maintenant être rallié au Kodesh, c'est-à-dire faire l'union du Kodesh et du Chol. Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont les rabbins de cette Torah Takabala. Maintenant que je sais ça, je dis d'accord. Mais alors, cette Torah Takabala, elle sert donc à un idéal. Mais pour arriver à cet idéal, je fais quoi ? Ah, bah pour arriver à cet idéal, Rabbi Shimon, il t'a écrit un madrich. Madrich, l'idéal. Ça s'appelle Sefer HaZohar. Effectivement, le but du Zohar est de nous faire sortir d'exil. C'est marqué noir sur blanc dans le Zohar. C'est en étudiant ce livre que les Béné Israël sortiront d'exil, Berachamim. C'est une phrase du Zohar. Et donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que Sefer HaZohar est un madrich, mais pas pour rester en mode Zohar. Et là, pour devenir en mode Rabbi Meir vers Rabbi Shimon. En d'autres termes, les cinq élèves de Rabbi Akiva vont porter chacun d'entre eux les différentes formes de la Torah qui vont nous permettre de traverser l'exil. Aujourd'hui, eh bien, Baruch HaShem, nous avons traversé cet exil. Nous avons traversé cet exil et donc, eh bien, nous pouvons commencer à redevenir, eh bien, ce que nous sommes censés être. Qu'est-ce qu'on est censé être ? Eh bien, on est censé être ce qu'on a cessé d'être avec Rabbi Akiva. On a cessé d'être un message à l'humanité depuis la mort de Rabbi Akiva. Vous allez me dire quoi ? Rabbi Akiva, il y avait un message pour toute l'humanité ? Bevadai. Abotai, quel est le dernier message de Rabbi Akiva? Quel est le dernier message de Rabbi Akiva? Le dernier enseignement de Torah de Rabbi Akiva? Quel est-il? Vous le savez. Ouais, je vous laisse encore 10 secondes pour me dire de quoi il s'agit. Bon, on va dire que c'est parce que vous ne pouvez pas parler. C'est pas compliqué. Rabbi Akiva, son dernier message, c'est le fameux « Mais quoi, Rabbeinu, tu pleures pas ?» Il dit non. Toute ma vie, j'ai voulu pouvoir réaliser le verset « Ve'afta et Hashem Elohecha bechol levafra, bechol nafshecha, bechol ma'odecha. Bechol nafshecha, c'est fastoche. Bechol levafra, bechol levafra, c'est fastoche. Et tzaratov, et tzarara, j'en fais mon affaire. Bechol me'odecha, de donner tous ses biens pour cela, c'est fastoche. J'en fais mon affaire. Mais bechol me'odecha, bechol nafshecha, c'est afilu notel et nafshecha. Et maintenant qu'on est en train de me tuer, que donc je peux enfin servir Dieu, bechol nafshi, eh bien, je ne vais pas réaliser le pasouk. Et donc, il crie, Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. Mais la question, c'est que cet enseignement, à qui il le donne? D'après le Talmud de Babylone, il le donne à ses élèves qui sont là et qui pleurent. Mais d'après le Talmud de Jérusalem, ce dernier enseignement, il le dit à son bourreau qui est en train de massacrer. Le représentant du bras armé de Rome. C'est que le dernier message de Rabbi Akiva est pour le monde entier. Que Am Israël, son message, c'est Ve'ahavta et Hashem Elohecha, Bechol Levavecha, ou Bechol Nafshecha, ou Bechol Ma'odecha. C'est le dernier message de Rabbi Akiva et il est pour l'humanité. En d'autres termes, nous avons pour rôle, lorsqu'on a réussi à comprendre la Torah de Rashbi Shimon et Rabbi Meir, ben de retrouver notre rôle, eh bien c'est de pouvoir recommencer à donner ce message à toute l'humanité. Je parlais tout à l'heure, dans le titre du cours, de Rabbi Akiva, Bar Korva, Ve'Astérix. Ben, je ne vous apprends rien en vous disant que Astérix, c'est Bar Korva. Je pense que c'est une évidence pour toute personne qui parle un peu français. D'ailleurs, ce n'est pas de moi, hein, évidemment. C'est Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, papa d'Astérix, qui l'a clairement dit, que son père lui avait dit. René Goscinny n'était autre que le petit-fils du Rav Avraham Goscinny de Varsovie. Et donc, Anne Goscinny l'avait très bien dit. C'était l'histoire de Rabbi Akiva, Panoramix, et de Bar Korva, Astérix. C'est une étoile. Il s'appelle Korva. Que certains Midrashim voudront même dire que Bar Korva avait la force de jeter des grosses pierres sur les Romains. Nous. Astérix a été traduit dans toutes les langues du monde entier. Bon, mais ça n'a rien à voir avec notre cours. C'est simple pour le kiff. Tout ça pour dire, Abotai, que le moment est venu, eh bien, tout simplement, d'être ceux qui peuvent réussir là où l'époque de Rabbi Akiva a échoué. Les élèves de Rabbi Akiva, leur rôle, comme je l'ai dit, était de nous permettre à nous d'arriver. Rabbi Lazar ben Shamoa et tous ses successeurs ont continué à transmettre la Torah Shebirtav. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda ont continué à transmettre Torah Shebealpe. Rabbi Meir, Rabbi Shimon ont transmis Torah Tassod. Pour qu'aujourd'hui, on puisse réunir ces trois taurotes et donc redevenir les Rabbi Akiva de notre génération. Abotai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Redevenir les Rabbi Akiva de notre génération. Réussir à concrétiser là où eux ont échoué. Eh bien, moi j'y trouve un petit pied de nez à l'histoire, j'y trouve une référence historique. Vous savez quel a été l'homme qui a retrouvé les lettres du dernier général en chef des armées d'Israël, c'est-à-dire de Bar Korva. Le dernier général en chef des armées d'Israël, Shimon Bar Korva, a écrit des lettres. Des lettres qui ont été enterrées, perdues dans l'histoire. Et qui les a retrouvés? Vous savez quel est l'archéologue qui va retrouver les lettres du dernier général en chef des armées d'Israël? Ben, je vous le donne en mille. C'est le premier général en chef des nouvelles armées d'Israël, à savoir Yigael Yadin. Yigael Yadin va devenir le premier ministre de la Défense de l'État d'Israël. Il sera